ça commence à sentir la NFL. On est le 24 juillet, mais la saison qui va commencer dans quelques semaines. Et là, ce sont les camps d'entraînement qui vont battre leur plein dans les prochains jours. Prochaine semaine, on va commencer à avoir des matchs pré-saison également. Là, pas tout de suite, là, mais ça va arriver plus vite que vous croyez. Et pour conclure sur ce qu'on parlait juste avant la pause avec la bague des Eagles, il y a un des auditeurs sur la messagerie tech, je le remercie d'ailleurs, c'est Nicolas, je crois, qui nous a mentionné qu'il a fait la demande à un meilleur ami de l'homme, maintenant ChatGPT, qui suggérait, est-ce que c'est la bonne réponse ou pas, que c'était possiblement une bague où le joueur qui a reçu la bague avait un lien avec le Brésil, soit était originaire du Brésil ou ses parents peut-être qui étaient originaires. Alors c'est peut-être le côté personnalisable de la bague, là où on met le pays de là d'où vient l'athlète, peut-être que c'est ça la réponse. Bref, lorsque je croiserai Jalen Hurd, je lui poserai la question. Et salutations également sur la messagerie texte à Mario Boulette, chauffeur d'autobus à La Salle avec la STM, qui voulait lui-même saluer tous les chauffeurs d'autobus de la STM. Alors, salutations faites, merci pour le travail que vous faites sur nos routes ce matin. Ça semble être un magnifique matin.
Oui.
Écoute, je pense qu'en fait, ça ne peut pas être plus parfait comme matin.
Il fait
super beau. C'est un beau début de journée, 7h03. Et on va poursuivre ce beau début de journée en allant s'entretenir avec notre expert NFL au Club du Matin, version estivale, Jeff Maltais, qui est avec nous. Et c'est ma première fois que j'ai la chance de faire de la radio avec lui. Comment ça va, Jeff?
Salut Jasmin, ça va très bien, toi?
Merci, ça va très bien, merci. Merci d'être là ce matin, c'est super apprécié. Puis j'avais hâte de te parler parce que chaque fois que tu penses qu'il se passe pas grand-chose dans la NFL, il y a toujours plein de choses qui se passent dans la NFL.
Ben, exactement. Tout le plaisir est pour moi, puis tu le disais tantôt. Écoute, une semaine exactement, le premier match pré-saison, le fameux match du Temple de la Renommée.
Ah, voilà.
Alors, c'est jeudi prochain. Chargers de Lyon. Et puis, les camps d'entraînement, là, la dernière équipe à se remporter, c'était hier. Alors, tout le monde était au boulot ce matin.
Ouais, dans les derniers jours, c'était les tests médicaux, tests physiques. Mais là, je pense qu'on va commencer à suer davantage. Quoique les tests physiques, ils doivent suer quand même, là, mais on va commencer à travailler plus concrètement là, dans les prochains jours. Jeff, j'ai envie de commencer avec toi sur ce qui se passe à Cincinnati avec les Bengals parce que c'est une situation, je dirais presque catastrophique pour commencer un camp d'entraînement. Déjà que les Bengals ont déçu quand même l'an dernier, ont été aux prises avec un paquet de problèmes. Maintenant, on se retrouve, on le sait, avec Trey Hendrickson qui est toujours pas avec l'équipe en pourparler pour une prolongation de contrat. Le premier choix de l'équipe, Shamar Stewart, n'a toujours pas signé non plus. Hier, Joe Burrow a parlé pour la première fois aux médias. Il ne s'est pas caché pour dire évidemment, c'est décevant tout ça, la manière avec laquelle ça commence à Cincinnati.
Ah, tout à fait. L'histoire se répète un petit peu du côté des Bengals. C'est pas la première fois, loin de là, qu'on a des problèmes contractuels avec certains joueurs. Mais cette année, la distinction, c'est que du côté de l'offensive, chez les Bengals, j'en parlais un petit peu avec Anthony en début de semaine, l'an passé, l'attaque n'a absolument rien à se reprocher du côté des Bengals. On a été fumant toute la saison.
Ouais.
Mais la défensive a été épouvantable. Donc, où est-ce que je veux en venir, c'est que du côté des contractuels à l'attaque cette année, dans l'entre-saison, on était très généreux avec Jamar Chase et avec T. Higgins. Joe Burrow, ça avait déjà été réglé, si je me trompe pas, c'était il y a 2 ans, mais qui a signé sa prolongation de contrat. Alors, on a donné un contrat record à Jamar Chase et un contrat très, très, très généreux également pour T. Higgins comme receveur numéro 2. Il y a une espèce d'échelle, là. Alors, on est allé dans le haut de l'échelle dans les deux cas. Mais du côté de la défensive, là où est-ce qu'on a beaucoup de problèmes, ben là, la situation de Trey Hendrickson, ça dure là, depuis le début de la saison morte, que les rumeurs s'intensifient, qu'il veut pas jouer lui, dans le fond, là, ce qui reste, il reste une année de contrat seulement cette année à 16 millions de dollars. Bon, non garanti, mais on sait que les vétérans dans la NFL, dès qu'il y a un match de jouer dans la saison, le contrat est garanti. Donc, je pense pas que c'est ça le point. C'est vraiment la somme d'argent. Et on se compare du côté de Trey Hendrickson, rappelons-le, qui a terminé au premier rang l'an passé à 17,5 sacs, premier rang de la NFL.
Et qui en a 43 depuis 3 ans, je pense. C'est même le meneur ou le deuxième dans la NFL au cours des 3 dernières années. Là.
Ben absolument, absolument, Jasmin. Et là, lui, il se compare au contrat que T.J. Watt a signé la semaine passée, parce que lui aussi voulait plus d'argent, et on lui a donné 3 ans, 123 millions, imagine-toi. Est-ce qu'il va tout toucher cet argent-là? Peut-être pas, parce que je crois que, si je ne me trompe pas, c'est 75 à 80 millions garantis là, sur son 123. Mais on voit que la moyenne là, pour les meilleurs ailiers défensifs se rapproche du 40 millions annuels, et là, on est à 16. Et le tu sais, lorsque le joueur avance en âge, c'est comme Trey Hendrickson a plus de 30 ans, tu sais, c'est le temps tout de suite. T.J. Watt, c'est la même chose. Alors, lui, là...
Ça m'apparaît particulier. Je comprends pas pourquoi on veut pas le payer du côté des Bengals. C'est le joueur le plus important en défense de loin. C'est le capitaine défensif de cette équipe-là. Sans lui, la défense va avoir tellement de difficultés. Déjà que c'est pas une défense élite dans la NFL. J'ai hâte de voir si on va finalement lui donner son argent. Mais lui, tu disais T.J. Watt, je pense qu'il se compare aussi à un Myles Garrett, possiblement à un Max Crosby, qui ont tous signé des contrats dans les dernières semaines. Là.
Tout à fait, tout à fait. Micah Parsons, écoute, c'est cette classe-là, là, le top 10, top 15, des ailiers défensifs. Et j'ajouterai à ton point que le seul choix de première ronde sur les 32 qui n'est pas au camp, c'est Shamar Stewart. Alors là, c'est un autre allié défensif. Ouais. On a besoin d'aide chez les Bengals. Mais c'est, tu sais, d'un autre côté, je comprends l'équipe. Je pense qu'on offre quelque chose à Hendrickson, mais là, ça, c'est probablement que, étant donné qu'il a, si je me trompe pas, 31 ou 32 ans, on veut peut-être pas aller, mais on doit y aller avec une prolongation peut-être à court terme, comme on a fait avec T.J. Watt. Et le pire, c'est qu'on a l'espace pour le faire là, sur le cap salarial cette année. On peut mettre artificiellement une année assez haute, parce qu'on sait que dans la NFL, on peut mettre ce qu'on appelle le cap hit différent d'une année à l'autre pour un petit peu jouer avec les années, mais cette année-là, on a de la place là, chez les Bengals pour augmenter le salaire là, de façon considérable à Trey Hendrickson. Alors, c'est un bras de fer qui se dessine, et c'est 90 000 $ d'amende par jour pour Hendrickson quand il est pas au camp. Alors, c'est une situation à surveiller.
On est le 24 juillet, pour l'instant, il y a pas le feu encore, mais plus les semaines vont avancer, plus l'urgence va arriver dans ce dossier-là, dont on va reparler, Jean-François. Je veux t'amener du côté des Jaguars. Liam Cohen, l'entraîneur des Jaguars, a confirmé hier que Travis Hunter aurait la chance de se faire valoir tant en attaque qu'en défense. Et ça, c'est l'un des dossiers qu'on avait hâte de suivre. Deuxième choix au total lors de la dernière séance de sélection. C'est une licorne. Travis Hunter peut jouer comme receveur de passe et comme demi de coin. On sait toujours pas vraiment c'est quoi sa vraie position s'il en avait qu'une seule à choisir. Mais hier, Liam Cohen a dit que Travis Hunter avait reçu le livre de jeu des receveurs en premier, parce que c'était possiblement le plus complexe là, à décortiquer. Alors, c'est celui de receveur qui l'a reçu en premier, mais il va avoir la chance de se faire valoir des deux côtés.
Ben, absolument, absolument. C'est très fascinant, cette situation-là, parce que tu le dis, hein, c'est une licorne. Donc, on n'a jamais vu rien de tel. Comme je le disais un petit peu en début de semaine, on peut se rappeler de Deion Sanders à l'époque, mais Deion ne jouait pas beaucoup à l'offensive. T'sais, c'était surtout un demi de coin qu'on utilisait occasionnellement comme receveur de passe. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu vraiment un joueur carrément là aux deux positions.
Un choix de la NFL.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Exactement. Généralement, je dirais, Jasmin, que la position de receveur de passe, recrue pour recrue, on va voir plus des receveurs de passe recrues être utilisés que des demi-points. Là, je parle, tu sais, dollar pour dollar, c'est généralement c'est ça, parce que on est capable du côté d'un receveur de passe de l'utiliser. Je veux pas aller trop dans le domaine technique, mais t'as trois endroits de receveurs éloignés normalement dans une formation 31, le X, le Y et le Z. Donc, tu es capable de montrer à un joueur, bon, regarde, apprends le livre de jeu de la position X. Puis on y va avec ça graduellement, puis au fil des années, on rajoute le Y ou le Z, tu sais, ça peut être inséré à l'intérieur, tout ça. Donc, on est capable de peut-être un petit peu diminuer la charge d'apprentissage. Alors qu'au niveau de demi-coin, oui aussi, on peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, mais là, t'es carrément sur ton île, là, quand le dimanche, moi, je le dis toujours, quand une recrue arrive, puis t'étais dans la NCAA avant, et là, t'arrives le premier dimanche, et tu regardes devant toi, le ballon, c'est le premier jeu, c'est un Justin Jefferson.
Ouais, Jefferson, t'as Jamar Chase, peu importe.
Alors, Alors, tu peux arriver, là, puis faire deux ou trois secondes, puis whoop, boum, la passe est par-dessus toi, c'est 7-0 pour l'autre équipe, et tous les médias parlent de toi partout. Alors, tu sais, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, Travis Hunter, c'est une bête spéciale. J'ai hâte de voir, tu sais, j'ai dit la difficulté à l'analyser, à le prévoir, parce que on n'a pas de comparatif récent là par rapport à ça. Alors, on va se fier à ce que Liam Cowan dit, mais moi, j'ai l'impression qu'on va davantage le voir comme receveur de passe au départ, à moins que le plan soit de peut-être on a besoin de plus d'aide en défensive, mais je pense que c'est vraiment à la position de receveur qu'on a besoin pour venir appuyer Brian Thomas chez les Jaguars.
Jean-François, il nous reste 2-3 minutes. J'aimerais ça passer à travers deux autres petits sujets que je voulais te parler. D'abord, les Giants de New York qui ont confirmé que Russell Wilson serait le quart partant pour amorcer 2025. Ça m'a fait sourciller un peu parce qu'il y a d'autres options chez les Giants et parce que je pense quand même là, que Russell Wilson, il en reste plus tant que ça dans le réservoir, mais est-ce que ce sera véritablement le cas le premier match? On verra, mais pour le moment, à l'ouverture du camp, on a dit que ce serait lui le quart partant. On a Jackson Dart qu'on a repêché en première ronde et il y a Jameis Winston également, un vétéran qui est là, mais selon ce qu'on a dit hier, ces deux gars-là, Winston et Dart, vont se battre pour le poste de numéro 2 parce que c'est Wilson qui va être le partant.
Moi, je suis pas nécessairement surpris parce que Russell Wilson, qu'est-ce qu'on veut, lui? Je pense qu'on est conscient que ce n'est plus le Russell Wilson d'il y a 7, 8, 10 ans, mais c'est son intelligence, c'est sa gestion du match, c'est son expérience qu'on veut avoir avec cette équipe des Giants qui, depuis quelques années, c'est tout croche, surtout à l'attaque. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à lire les défensives, la ligne offensive. Des fois, c'est des choses qu'on voit pas, des fois, quand on regarde un match à la télé, mais le corps arrière peut guider sa ligne offensive, peut savoir les tendances, les appels à la ligne de Manny Winston.
C'est sûr que lui, là, cette expérience-là...
Oui, exactement. Winston aussi, c'est un vétéran. Mais je pense que Winston, ça fait quand même plusieurs années qu'il est carrière numéro 2, alors que Russell Wilson, dès l'an passé, là, il a joué, quand la santé lui a permis, là, on sait que c'est Fields qui a commencé, mais lorsqu'on a embarqué Wilson avec les Steelers, ça a été lui jusqu'à la fin. Et Jackson Dart, oui, c'est un premier choix, mais ça demeure un projet, Jasmine. Je pense que Jackson Dart là, a au moins une à deux saisons où est-ce qu'on va l'asseoir sur le banc et on va l'attendre parce que c'est un gars qui a monté plus en fin de saison là, dans la NCAA. Je pense pas qu'on veut l'utiliser tout de suite dans des matchs, mais on verra comment la saison va se dérouler.
Jeff, dernier sujet là, par rapport à ça, Tyreek Hill qui l'année dernière, bon, on sait ça s'est un peu mal terminé avec les Dolphins, avait refusé de jouer le dernier match puis avait exprimé sa volonté de vouloir se faire échanger. Toi, commenté ça à la première journée du temps, justement dit que ça va être difficile tourner la page là-dessus. Comment t'entrevois là, cette relation-là qui va se continuer, mais peut-être pas de la manière qu'on voulait du côté des Dolphins là, pour cette saison-là?
Écoute, moi j'aime beaucoup ce que Tua a dit hier. La réponse facile, ça aurait été de dire ouais, tout est correct, tout est réglé, mais non, il a mentionné que Tyreek devra travailler parce que tu sais, c'était un des capitaines de l'équipe. On a quelques capitaines là dans une équipe de la NFL. Et là, Tyreek Hill doit regagner son titre de capitaine selon son comportement. En fait, ce qui est arrivé dans le dernier match, en deuxième demi, il a décidé de se retirer du match.
Exact.
C'est ça. Puis par la suite, là, on fait des espèces de commentaires après le match, comme de quoi que c'était terminé. Ouais. Alors, écoute, c'est important pour Tyreek Hill, je vous le dis, là, parce qu'il avance en âge. Et s'il veut continuer à aller chercher des gros montants d'argent, de moins en moins d'argent garanti sur son contrat, doit connaître une grosse saison parce qu'il en a besoin. Je sais pas si vous avez suivi les actualités dans son cas, là, mais c'est plusieurs.
Les actualités sont toujours passionnantes à suivre dans le cas de Tyreek Hill.
C'est vrai.
Alors, je pense que lui, là, nous autres, 1 million, ça serait assez, mais lui, je pense qu'il en a besoin de 25-30 par année.
Ouais, c'est ça. Tyreek Hill, c'est un marchand de vitesse. C'est un gars qui a fait sa carrière avec sa vitesse. Là, il avance en âge aussi. S'il veut se trouver une utilité dans des schémas offensifs avec l'équipe, mais il doit devenir aussi un bon vétéran jusqu'à un certain point, doit pouvoir justifier sa présence, même s'il avance dans sa carrière aussi. Quand tu vois ce genre de déclaration-là et comment il a terminé la saison avec les Dolphins, tu te dis, est-ce que ça vaut... Pour l'instant, ça vaut encore la peine parce qu'il est bon, mais quand ça va avancer dans les prochaines années, j'ai l'impression que rapidement va venir la question de se dire, est-ce qu'on n'est pas mieux de passer à autre chose, un peu comme on a passé à autre chose de Antonio Brown, peut-être plus rapidement que ce que sa fin de carrière aurait pu être là.
Ben exactement, exactement. C'est exactement la situation dans son cas. Mais on a donné la chance au coureur. Ouais. Depuis ces déclarations-là, on n'en a pas entendu parler beaucoup. Là, ça s'est bien passé. Alors, à lui de... Parce que, écoute, les Dolphins en ont besoin. C'est la force, le duo avec Jalen Waddle. Et si toi es en santé, ben effectivement, là, on pourrait revenir à des saisons. Rappelons-nous, là, deux saisons de consécutives de 1700 verges et plus en 2022 et 2023 pour Hill, ce qui était parmi les meilleures saisons de l'histoire de la NFL pour des receveurs de passes. Alors, doit revenir l'an passé à peine 900 quelques verges, mais jouait blessé, il avait une fracture au poignet, par contre, là, toute la saison. Donc là, cette année, saison importante pour lui.
Jeff, tu sais que je parlerai de l'NFL avec toi pendant les quatre prochaines heures, si je le pouvais, hein?
Toujours un plaisir. On aura assurément l'occasion, Jasmin.
Merci de prendre du temps avec nous ce matin. C'est un plaisir de t'entendre. T'es passionnant à entendre. Puis je trouve ça tellement le fun de reparler de la NFL. On dirait que ça amène une espèce de fibre. Je sais pas quand on recommence à parler de NFL. Je sais que ça veut dire que l'été, tranquillement, arrive dans sa deuxième moitié là, de l'été. Mais c'est le fun de parler de la NFL. Puis merci d'avoir pris le temps avec nous ce matin.
Allez, salut les gars. Bonne fin de semaine.